Alors c'est aujourd'hui le dernier culte que je donne en tant que pasteur de colonie Vendeuvre-Choulet. Vous ne pouvez pas savoir la joie que nous avons eue, Souyon et moi, d'être parmi vous. Mais nous ne sommes pas très loin, c'est une bénédiction que nous puissions rester encore quelque temps à Colonie, et puis dans les prochains mois à Saint-Pierre. Mais on reviendra régulièrement voir cette paroisse que nous aimons beaucoup. Alors cherchons la place de la dimension collective de notre foi. Je vous propose de suivre ce récit bien connu des deux disciples marchant sur le chemin d'Emmaüs, après l'exécution de Jésus. Voici que deux disciples se rendaient à un village distant de 60 stades de Jérusalem, du nom d'Emmaüs. Et ils s'entretenaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et cherchaient ensemble, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient comme empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « Quelles sont ces paroles que vous échangez en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air sombre. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Es-tu le seul qui, habitant à Jérusalem, ne sache pas ce qui s'est produit ces jours-ci ? » Quoi ? Leur dit-il. Ils lui répondirent : « Ben, ce qui concerne Jésus le Nazaréen, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui apporterait la rédemption à Israël. Mais avec tout cela, c'est aujourd'hui le troisième jour depuis que ces événements se sont produits. Alors il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont stupéfiés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu'elles avaient vu une sorte de vision d'ange qui le disait vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors il leur dit : « Que vous manquez d'intelligence et êtes lents à faire confiance à tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte afin d'entrer dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur fit l'interprétation de ce qui, dans toutes les Écritures, le concernait. Lorsqu'ils approchèrent du village où ils allaient, ils voulaient aller plus loin. Mais ils le forcèrent en disant : « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Et il entra pour demeurer avec eux. Une fois installé à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux furent ouverts et ils le reconnurent, mais il devint invisible pour eux. Ils se dirent alors l'un à l'autre : « Notre cœur ne brûlait pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin, lorsqu'il nous ouvrait les Écritures. » Et ils se levèrent à l'instant même, retournèrent à Jérusalem, retrouvèrent assemblés les 11 et ceux qui étaient avec eux. Ô Éternel, par l'étude de nos Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de résurrection et de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors ces deux disciples sont désespérés. À cette occasion, nous avons une pensée pour toute personne dont la foi et le moral connaissent un passage à vide. Ce sont des choses qui arrivent, hélas. Cela fait que ce récit est une bonne nouvelle pour nous. Il dit que, quelle que soit notre foi ou notre absence de foi, quelle que soit notre façon d'être, puisqu'ils vont dans le mauvais sens, finalement, s'éloignant de Jérusalem, du lieu de la paix, quel que soit le degré de notre morale ou notre dépression profonde, notre histoire personnelle peut déboucher bientôt sur une joie, sur une vie pleine d'allant, sur une foi vivante. C'est d'autant plus vrai que Luc, l'auteur de ce texte, nous a préparé une place dans ce récit. En effet, il parle de deux personnes. L'une a un nom, Cléopas. C'est donc sans doute un homme et un grec, mais l'autre. Nous ne savons pas si c'est un homme ou une femme. Nous ne savons pas son âge, nous ne savons pas son origine. Son nom n'est pas indiqué, mais son nom, vous le connaissez. Parce que son nom, c'est le vôtre. Son âge est le vôtre. Cette personne, c'est vous dans le texte. Même si vous n'êtes pas désespéré comme ces deux personnes, ce récit parle d'un chemin de croissance pour vous aujourd'hui qui entendez ce récit. Et vous n'êtes pas seul sur ce chemin, nous dit Luc. Nous voilà donc membres de cette petite équipe qui chemine. J'y lis une figure de nos assemblées, lors de nos cultes, lors de nos réunions bibliques ou théologiques, lors de nos catéchismes. Ce récit met au cœur de la progression de ces deux personnes au fait d'être en équipe. Et ça rappelle la promesse du Christ qui nous dit « Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux », ou on peut traduire aussi « Je suis en eux ». Alors vous allez me dire que l'on peut aussi chercher Dieu quand on est tout seul. Heureusement. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus nous invite à faire prioritairement. En nous retirant, nous dit-il, dans la solitude de notre chambre pour prier Dieu là, cœur à cœur. Ou bien une autre fois, avec la parabole du fils prodigue, en entrant en nous-mêmes afin d'arriver à faire le point, savoir où nous en sommes et choisir d'aller vers le Père. Et ailleurs, dans les derniers mots de l'Évangile selon Matthieu, Jésus nous promet qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais là, il n'y a aucune condition de se rassembler pour bénéficier donc de ce service premium, comme on dit aujourd'hui, ce service personnalisé de Dieu, du Christ, pour nous. Alors donc, les deux démarches se complètent. La démarche intime est fondamentale, comme le dit Jésus. Et il y a la démarche en groupe. En groupe, donc, d'au moins deux personnes, puisqu'à deux, c'est déjà du multiple. Et cette démarche en groupe, elle est complémentaire de la première. Elle nourrit, elle stimule la première démarche qui est fondamentale, du cœur à cœur avec Dieu. Alors la partie solitaire de notre démarche de foi, elle favorise l'authenticité de notre foi et puis ça nous permet aussi de mûrir notre personnalité, pas simplement une vision de l'humain en général, mais de nourrir la personne que nous sommes pour en faire, pour qu'elle puisse s'épanouir. Car quand nous sommes seuls, nous n'avons pas à composer une figure. Puisque nous n'avons pas d'autre témoin que ce Dieu qui nous connaît déjà parfaitement et qui nous aime dans l'état. La partie collective de notre démarche, elle permet de nous soutenir quand nous n'avons pas le moral ou quand notre foi est au fond de nos chaussettes. Mais pas seulement. Nous voyons ici que l'assemblée de deux personnes est le lieu de découverte extraordinaire. C'est pour ça que j'ai choisi ce passage, afin d'honorer et de remercier Dieu pour nos assemblées dans notre église de Genève, mais aussi et peut-être d'abord dans cette paroisse tellement sympa. J'en ai personnellement bénéficié et j'espère, je pense que vous aussi en bénéficiez puisque votre fidélité en est le signe. Comme on dit, on vote avec ses pieds. Alors, c'est le bénéfice de s'assembler en réalité, ne serait-ce qu'à deux. Car choisir le multiple, ne serait-ce qu'à deux, c'est accepter de ne pas être soi-même détenteur de la vérité ultime. C'est essentiel humainement pour être au milieu des autres, et c'est essentiel spirituellement pour ne pas trop se prendre pour Dieu. Choisir le multiple, c'est choisir d'être surpris. C'est ce qui explique que l'on ne peut pas se chatouiller tout seul, parce que nous savons déjà par avance où nos doigts vont se porter, avec quelle pression. Donc la surprise est fondamentale. Et l'Église est là pour chatouiller notre foi, notre existence, notre regard sur la vie et sur ce monde. Alors deux verbes soulignent ce que font ces deux personnes quand Jésus va pouvoir les rejoindre. Le premier est le verbe grec « homiléo ». C'est souvent traduit par « se parler », comme on dit une homélie pour le sermon. Mais ce verbe a un sens plus général que ça. Enfin, je veux dire, c'est un peu délicat parce que j'ai une professeure de grec dans l'assemblée, mais elle pourra me critiquer à la sortie. Donc, homiléo, moi, il me semble, c'est ce que j'ai vu dans le dictionnaire les plus savants, et c'est ce que j'ai vérifié dans la Bible des Septante, donc la traduction en grec de la Bible hébraïque. Homiléo, c'est plus large que ça, en fait. C'est le simple fait d'être en interaction avec quelqu'un d'autre. Et c'est le point essentiel ici, cité pas moins de 3 fois dans cet épisode. Alors qu'apporte le fait d'être ensemble ? C'est assez mystérieux, mais c'est bien réel. Écouter de la musique dans son salon, et écouter la musique dans une salle de concert, c'est deux expériences complètement différentes. Même si on ne parle pas aux autres spectateurs, choisir d'être avec d'autres est une expérience puissante, viscérale, existentielle. Alors le second verbe, c'est « sun zeteo ». Sun, ensemble, zeteo, chercher. Chercher ensemble. Alors évidemment, chercher, c'est quelque chose qui est essentiel pour toute progression possible dans notre existence. Mais ici, il y a en plus « chercher ensemble ». Chercher ensemble, la question n'est pas d'être du même avis, parce qu'alors nous arrêterions de chercher, évidemment. Mais chercher à plusieurs, ça nous permet d'avoir une vision, pourrait-on dire, en relief de la réalité du monde et de Dieu, ce que ne permet pas d'avoir une vision d'un point de vue unique. Donc choisir d'être avec d'autres, choisir de chercher ensemble, c'est un double désir qui nous ouvre à plus que ce que nous sommes. Et c'est là, effectivement, que le Christ peut arriver à apparaître et les rejoindre, les accompagner. Alors, une des grandes chances de notre époque un peu barbare, c'est que personne n'est obligé d'aller à l'Église par convenance sociale. Et donc, tous ceux qui vont au culte ou à une étude biblique sont animés par une véritable recherche personnelle et par le désir de ne pas la mener entièrement tout seul dans son coin. Ça fait des assemblées effectivement extraordinaires. Alors, que cherchons-nous en réalité comme ça, puisque nous cherchons ensemble ? Comme ces deux personnes sur le chemin d'Emmaüs, nous cherchons quelque chose qui ouvre notre existence, qui embellisse notre vie et notre monde. Un je ne sais quoi, précisément. Et c'est bien là que c'est intéressant. Un je ne sais quoi que nous ne voyons pas encore, qui nous échappe, mais que nous pressentons plus ou moins comme présent d'une certaine façon à nos côtés. Alors la première chose que leur apporte le Christ en les rejoignant, c'est de nous aider à nourrir et à creuser notre questionnement. Alors c'est sans arrêt dans l'Évangile que Jésus nourrit le questionnement de la personne qu'il rencontre. C'est souvent la première chose qu'il fait. Alors il nourrit notre questionnement sur ce qui nous arrive et ce que nous espérions, ce que nous espérons. Mais je crois qu'effectivement, c'est fondamental pour le rôle de l'Église. Le rôle de l'Église est bien moins de nous donner des réponses que d'enrichir et stimuler notre questionnement. Et donc, ce n'est pas de nous asséner ce qu'un chrétien devrait voter ou devrait penser sur la situation géopolitique du monde, mais plutôt de stimuler notre propre lecture de notre existence personnelle, notre propre lecture du monde, et y chercher notre vocation personnelle. Sinon, ça ne sert à rien. C'est en particulier, je pense, le rôle du culte. Grâce à ce lieu connoté qu'est une église, qu'est un temple, on ne se trompe pas en entrant là. Grâce aux personnes diverses qui sont assemblées, qu'on n'a pas choisies, grâce au pasteur qui va dire quelque chose, peut-être qui ne nous plaît pas, mais qui est là aussi un chatouillement, un gratouillement imprévisible, grâce à ces textes vieux de 2000, 3000 ans, grâce à ces chants qui ont 500 ans, ces textes de la liturgie vieux de plus de 1000 ans, cela nous permet de prendre du recul dans notre course quotidienne et peut-être ainsi de mieux voir où nous en sommes nous-mêmes avant de retourner dans notre vie quotidienne autrement. Alors le deuxième service que leur apporte le Christ, c'est d'ouvrir pour eux toutes les Écritures, nous dit le récit. Alors c'est bien sûr pas possible de creuser l'interprétation des 23 145 versets de la Bible hébraïque, le temps de faire quelques kilomètres entre Jérusalem et ce village improbable, distant de 60 stades. C'est donc plutôt une formation qui va les rendre capables d'interpréter par eux-mêmes toutes les Écritures, n'importe quel passage de la Bible, avec le Christ, avec ses paroles, avec ses gestes, comme clé d'interprétation de la Bible, et c'est effectivement formidablement éclairant pour nous. Donc le rôle de l'Église est ainsi bien moins de nous donner le sens de tel ou tel passage biblique, mais plutôt de faire en sorte que chaque fidèle, du plus petit au plus grand, puisse par lui-même bénéficier de ce puissant outil qu'est la Bible, les Écritures, pour apprendre à les lire, pour apprendre grâce à elles à nous lire et à nous questionner en vérité un peu plus sur nous-mêmes et sur la vie et sur Dieu. Alors le troisième bénéfice qu'apporte cet accompagnement par le Christ de leur équipe, c'est qu'alors, nous dit le texte, il force le Christ à demeurer avec eux. Dans un sens, c'est une profession de foi. Le rôle de nos rencontres est essentiellement de réconcilier chacune et chacun avec Dieu, avec le Christ, de nous aider à désirer faire ainsi une place au Christ dans notre vie, qu'il demeure avec nous. Quand on demeure avec quelqu'un, c'est dans la vie quotidienne. On fait la vaisselle, la cuisine ensemble, on est dans la vie quotidienne ensemble. Et c'est cela, imposer au Christ de demeurer avec nous, forcer notre foi, faire ce choix personnel. Alors bien sûr, sans attendre d'avoir épuisé toutes les questions, c'est pour ça que le Christ était prêt à aller plus loin, les entraînait plus loin. Alors ils pourront bien sûr poursuivre ces recherches après. C'est justement en ayant pris goût, en ayant mesuré les bénéfices de ce questionnement, de la lecture des Écritures, que nous pourrons continuer le chemin ensuite. Alors cela ressemble à un objectif atteint que les disciples puissent ainsi choisir de faire entrer le Christ dans leur vie pour qu'ils puissent y demeurer. Pourtant, le récit continue. Le Christ prend du pain. Il rend grâce à Dieu, il rompt le pain et il leur donne. Bien sûr, c'est une référence au rite de communion qui existait déjà à l'époque de Luc et qu'on appelait alors la fraction du pain. C'est ce que nous faisons en Église. Jusqu'à présent, leur démarche avec le Christ était donc plutôt intellectuelle. Une interrogation, une interprétation des Écritures. Maintenant, ils vont faire une expérience vive de communion avec le Christ. Et cela change complètement leur trajectoire de vie. Alors remarquons qu'ils n'ont même pas besoin de manger le pain ni de boire dans la coupe. Ce n'est pas magique. C'est la simple puissance du rite qui est ici évoquée. Le rite, il prend en compte l'humain dans son être au monde plus largement que la simple pensée. Et en fait, on sait bien que nous ne sommes pas qu'un cerveau, qu'une pensée. Nous sommes un corps entier. Nous ne sommes pas une âme versée dans un corps. Nous sommes un corps spirituel, pensant, social et spirituel. Et donc le rite est une force très puissante pour l'humain. Il est ainsi potentiellement une aide formidable et un danger. C'est pour ça que nous avons la joie de célébrer ici régulièrement la communion, choisissant ce texte. J'ai proposé qu'on ait une communion après quand même. Mais nous évitons finalement de faire la communion tous les dimanches. Nous évitons aussi de multiplier les rites, les symboles, les sacrements. Pour avoir le bénéfice, en cherchant d'éviter, pour nous prémunir du risque de manipulation qu'il y a derrière le rite, d'emprise sur nous. En même temps, bien sûr, on a aussi le droit de découvrir le Christ dans sa vie par les sacrements, par la communion en particulier, mais on a le droit de découvrir le Christ dans sa vie sans l'aide des rites aussi. Chacun sa sensibilité, c'est un outil, encore une fois, au service de notre cœur à cœur avec Dieu, de notre interrogation personnelle dans la solitude avec Dieu pour témoin. Alors si l'on regarde de près le texte, les disciples disent que quand leur Christ leur expliquait les Écritures, leur cœur n'était pas brûlant. Ils font la différence. C'est maintenant que leur cœur est brûlant. C'est maintenant que leur vie, que leur cheminement, que leur amour des autres est porté à incandescence. Et on le voit dans la suite du récit. C'est maintenant qu'ils n'ont plus besoin, en fait, de la présence visible du Christ. Car le Christ vit en eux, il vit par eux à travers ce multiple, et il y est pour toujours, il demeure, nous dit le texte. Amen.